Tignac, toi, t'as quel âge?
5 ans.
Et t'aimes bien le comté ou t'aimes pas?
J'adore.
C'est quoi ton fromage préféré?
Le comté.
C'est le seul que tu aimes ou tu en aimes d'autres?
C'est que le comté.
Ça a du goût, mais ça reste doux.
C'est l'un des fromages préférés des Français, petits et grands. On le consomme à 4, 6, 18, 24, voire 36 mois d'affinage. Il peut être doux, fruité ou corsé. Le comté est le fromage AOP, appellation d'origine protégée, le plus vendu en France. Il tient son nom de sa région d'origine, la Bourgogne-Franche-Comté, et plus particulièrement du Doubs et du Jura. La filière comté jouit d'une bonne image. Le prix du lait y est plus élevé qu'ailleurs. Il permet de rémunérer décemment les éleveurs. Mais victime de son succès, la production de comté a doublé ces 40 dernières années, jusqu'à atteindre 65 000 tonnes par an. Cette intensification a des conséquences directes sur l'environnement, notamment sur l'état des rivières.
On a récupéré toutes les données disponibles et ces données nous ont effectivement montré que vraisemblablement, le plus vraisemblable était que ces excès de nitrates avaient une origine agricole.
Les nitrates, mais aussi les phosphates retrouvés dans les rivières franc-comtoises, proviennent en partie des eaux usées rejetées par les agriculteurs. Ces eaux usées sont polluées par les engrais et par l'utilisation de lisier, plus problématique que le fumier pour l'environnement. Résultat, les algues prolifèrent dans les cours d'eau et étouffent la faune aquatique. Les producteurs de comté en ont conscience et mettent en avant leur cahier des charges strict et des pratiques en voie d'amélioration.
Moi, je suis à la fois producteur, paysan, mais je suis aussi habitant de la commune. Moi aussi, j'ai envie de boire de l'eau qui est bonne.
Le comté, un modèle de production en question, c'est un reportage de Martin Delacoux et Stéphane Beaufils.
Interception, le magazine de la rédaction.
Jean-Michel Blondeau ? Oui, ben on est juste en face de vous. C'est la voiture qui vient d'arriver.
La voiture noire ?
Ouais, c'est ça.
D'accord.
On va prendre un masque.
C'est bon. Blondeau ? À ce moment-là que le masque décide de lâcher.
Ah zut.
Oui, bah je veux bien, ça m'évitera de remonter.
T'en as un sous la main ou j'en prends un?
Nous venons d'arriver à Ornans, c'est au sud de Besançon, dans le département du Doubs. Nous sommes avec Jean-Michel Blondeau, qui est responsable d'une association, le SAMU de l'environnement. Il va nous mener en aval d'une fromagerie qui rejette depuis des mois ses eaux usées dans un sous-bois. Les eaux ruissellent ensuite jusqu'à un affluent de la Loue, rivière emblématique de la région.
Alors, vous reprenez la place.
Très bien. Donc au téléphone, vous me disiez que vous préférez qu'on prenne notre voiture.
Parce que la mienne, ils la connaissent. Et puis comme ils veulent éviter à tout prix qu'on aille faire des prélèvements ou qu'on aille sur le terrain. À droite là, pardon. Voilà. Ils nous ont chassés du terrain la dernière fois qu'on y est allé.
J'ai essayé de contacter la fromagerie en question. Ils n'ont pas voulu me rencontrer. Vous êtes en contact avec eux?
Moi, je l'ai croisé, le fromager, une fois où je faisais des analyses. Et puis j'ai fait mes analyses devant lui. On a essayé de discuter. Et moi, je lui ai proposé l'aide du SAMU de l'environnement. Parce qu'on a des spécialistes qui pouvaient l'aider au niveau de l'amélioration et de l'agrandissement de sa station. Mais bon, on m'a plutôt fait comprendre que j'aurais des problèmes si je continue à les embêter, quoi. Voilà.
Jean-Michel Blondeau, vous êtes donc à la tête du SAMU de l'environnement Bourgogne-Franche-Comté, une association de protection de la nature. Et si vous vous êtes intéressé à ces rivières, c'est que vous êtes pêcheur, c'est ça?
Quand j'ai quitté Paris et que je suis venu m'installer à Ornans, j'ai commencé à pêcher, j'ai retrouvé cette qualité de vie que j'avais dans ma petite enfance. Et j'ai l'impression de devoir beaucoup à la Loue, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir au départ. C'était quand même... Encore à cette époque, une des plus belles rivières à salmonidés du monde. Moi, j'ai croisé des Néo-Zélandais, des Américains, des gens qui venaient du monde entier pour se faire plaisir en allant pêcher la Loue.
là, on est à quelques mètres de la fromagerie en question. On prend un petit chemin, une petite piste forestière. Et on va, c'est ça, vers le lieu du rejet.
On va vers le bout du tuyau, en fait. Il y a un tuyau qui sort de la station d'épuration et qui se jette dans la forêt, là. Et l'eau s'écoule dans le vers un petit ruisseau qui est tout en bas de la vallée. Alors là...
Il faut qu'on descende dans les orties.
C'est à 7-8 mètres.
Ok.
C'est ici que ça se déverse, ça?
Ouais.
Bon, on va l'entendre.
Plutôt ici?
On l'entend arriver.
Donc là, il y a... on est dans une pente. Et il y a ce petit trou ici qui est entre trois rochers. Et c'est de là que se déverse l'eau tous les jours.
C'est un tuyau qui va jusqu'à la station d'épuration là-haut. Et comme toutes les fromageries, leurs stations sont en autocontrôle. C'est-à-dire que c'est eux qui font les analyses, les mesures des polluants. Et puis ils remplissent un cahier avec tous les taux chaque jour. Et on se rend compte que c'est insuffisant parce que même s'ils remplissent bien les cahiers en disant que tous les jours ils dépassent les limites permises, personne ne va venir les contrôler et puis personne ne s'en occupe derrière. Quoi. C'est...
Et ben on va attendre que le rejet arrive d'ailleurs, du coup. Pendant quelques secondes, on a entendu l'eau arriver petit à petit, puis de plus en plus fort. Le rejet est plutôt de couleur claire. Il y a un peu de mousse.
Alors, j'ai mis ça là. Ah ben malin, tiens, j'ai pas pris de tube. On va faire ça directement dedans.
Jean-Michel est en train de mettre un instrument de mesure dans le rejet.
Alors le pH, là, on est à 7,5, c'est quasiment normal. Température 27 degrés. Là, normalement, il ne devrait pas excéder 25.
Ça n'a pas une odeur spéciale?
Non, il y a des fois où ça sentait vraiment le fromage pourri. C'était vraiment nauséabond. Là, ça va. Mais je vous ai amené les deux derniers relevés que j'ai faits. 964 mg de chlorure, c'est gigantesque. En général, je mesure dans le ruisseau, en partie haute du ruisseau avant le rejet. Et puis 50 mètres plus bas quand ça s'est bien mélangé pour voir vraiment l'impact réel de ce rejet sur le ruisseau. C'est ça qui compte, hein, parce que là on a des chiffres qui sont terrifiants. C'est pas ces chiffres-là purs au niveau de la rivière. Mais bon, en été quand il n'y a pas d'eau, on peut diviser ça par deux et on a ce qu'on trouve dans la rivière.
Donc c'est pas normal qu'il y ait ces rejets. Ce sont les quantités qu'il y a à l'intérieur de nitrates, etc., qui sont anormales.
Tout à fait. Non seulement les polluants, alors des chlorures, il y en a des quantités astronomiques, parce qu'on utilise quand même beaucoup de sel en fromagerie. Il y a tous les produits de nettoyage, et puis des phosphates aussi, et on trouve du fer. Alors apparemment, en ce moment, ils enverraient moins d'eau vers le ruisseau, parce que la préfecture les a contraints a envoyé une partie de leur rejet dans une station d'épuration à côté.
Donc ça s'arrange un petit peu quand même.
Ah oui, oui. Mais bon, là, il y a tellement de polluants divers et variés. Même au niveau des stations d'épuration des communes, c'est pas encore au point. Dans la Loue, en ce moment, on voit presque plus de poissons.
Le gérant de la fromagerie d'Ornans n'a pas souhaité nous rencontrer. Il reconnaît que sa station d'épuration est sous-dimensionnée et nous explique qu'un camion vient en pleine nuit pour transporter une partie des eaux usées vers une station voisine. La fromagerie a également entrepris des travaux pour mettre aux normes ses installations. Il nous a assuré que tout devrait rentrer dans l'ordre au début de l'été.
Attention, un serpent.
Juste là.
Oui.
Couleuvre, hein.
Ouais, je sais pas.
Nous quittons Ornans pour aller plus à l'est, à la frontière franco-suisse. La rivière du Doubs matérialise cette frontière. Comme la Loue, elle est polluée par les nitrates et les phosphates. Les taux ont quadruplé en 40 ans. Ils restent sous les seuils autorisés, mais les associations s'inquiètent de cette forte augmentation, mais aussi de l'effet cocktail, c'est-à-dire des interactions entre ces substances. L'une des conséquences de cette pollution est la présence d'algues nocives pour la faune aquatique.
Il faut marcher un tout petit peu dans les hautes herbes pour arriver à la rivière.
Nous retrouvons Martin Delacou et Stéphane Beaufils au bord du Doubs.
Les montagnes au-dessus de nous, elles sont un peu à contre-jour, mais c'est bien sympa.
Les falaises.
Ouais, ouais.
Alors nous nous trouvons au nord du département du Doubs, à Gaumois, un village situé vraiment à la frontière entre la France et la Suisse. Et ici, nous retrouvons deux personnes de SOS LRC, SOS Loup et Rivière Comtoise, Patrice Malavaux qui est également garde-pêche, et Manon Sylvan qui s'occupe de tout ce qui est notamment communication de ce groupement d'associations.
C'est quand même plutôt agréable comme cadre de travail. Hein.
Ouais, c'est un beau bureau. Ouais.
Il y a une voiture qui arrive, deux voitures même, donc... Ce sont des pêcheurs,
ça, c'est
vous
des
connaissez
pêcheurs, je les connais, oui. C'est des bons en plus.
Pour leur... c'est,
jeune, ouais, c'est des tout jeunes, ouais.
Ah,
ouais.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Ça va?
Ouais.
Ouais, ça va.
Vous venez de loin?
Eh ben non, nous on est de Haute-Saône, donc à peu près 1h30 d'ici. Après, c'est un endroit qu'on connaît depuis quelques années déjà et où on a encore un peu la chance de pêcher encore. Des truites sauvages.
Vous appelez comment?
Jules.
Et votre camarade de pêche?
Johan. Mon ami Jules m'a amené ici l'année dernière. Et, voilà, c'est vrai que ça reste une des rivières magnifiques de Franche-Comté, même de France, hein, on va dire. Même si il y a beaucoup de problèmes sur les rivières, la pollution, la filière Comté qui joue pas forcément le jeu. Qui relâche plein de polluants pour la rivière, mais ça reste quand même une rivière magnifique, donc ça vaut le coup de venir ici. Quoi.
Vous en avez entendu parler comment de ce problème de pollution, notamment lié au Comté?
Au début, c'était beaucoup les pêcheurs, quoi. Les pêcheurs qui alertaient, qui en parlaient. Puis on le voit nous-mêmes, quoi. On le voit nous-mêmes. On sait déjà que l'épandage de lisier en hiver, c'est une catastrophe. Et puis les rejets des fromageries qui sont soit pas aux normes ou qui n'ont pas les capacités de traiter ce qu'ils produisent, donc... On sait que ça vient en majorité de là, quoi.
C'est un peu des sentinelles, en fait, les pêcheurs, Patrice.
Tout à fait. Ben, c'est bien qu'on parle de ça, parce que c'est vrai que dans les années où on a eu les très grosses mortalités de poissons, hein, c'est vrai que ça donnait plus du tout envie de venir à la pêche. Hein. On venait là, j'avais calculé en moyenne hein, le nombre de poissons morts que je ramassais, parce qu'on faisait des comptages, et je calculais sur les linéaires que je prospectais par rapport aux poissons que je trouvais, c'était un poisson tous les 25 à 50 mètres. Mort, donc c'est énorme. Hein. Et là, c'était un vrai spectacle de désolation, donc les pêcheurs ne venaient plus.
C'était vers quelle année, ça?
Alors, le pire, là, vraiment, le pire, c'était 2011, de 2011 à 2014. Et là, on s'est dit, mais on est foutu. Si, justement, les pêcheurs ne viennent même plus, ben, on s'est dit, on n'a plus de sentinelle. On perd vraiment l'ADN de la surveillance qu'on peut exercer au bord de la rivière, quoi. Parce que, bon, le garde-pêche, c'est bien, mais l'ensemble des pêcheurs, c'est ce qui fait l'essentiel, quoi.
Patrice Malavaux, donc vous êtes membre notamment de SOS LRC, de ce collectif d'associations. Comment vous en êtes venu à rejoindre ce mouvement, à participer à sa création, je crois?
Alors justement, hein, c'est dû à ces mortalités de poissons. Ils ont attrapé une maladie, alors une maladie qu'on connaît, hein, c'est la saprolegnia, c'est une mycose. Il se développe sur le corps du poisson des taches cotonneuses blanches. Et après, ça atteint les parties vitales, les branchies, la tête, et les poissons meurent. Et donc cette maladie-là, elle est très connue. Dans un environnement qui fonctionne bien, elle reste dans des proportions tout à fait normales. Là, ce qu'on a constaté, c'est que cette nouvelle forme de maladie dans les années 2010 est capable de détruire 70% du cheptel en quelques semaines.
Ça a été l'électrochoc pour vous, du coup?
Alors oui, du coup, on s'est retrouvés, c'est parti des pêcheurs, hein, qui étaient complètement dépités de voir ça dans leur rivière. On a commencé de se retrouver, on a commencé de discuter, on a fait une ou deux réunions. Et ça a été les prémices de ce qui est aujourd'hui le collectif.
Vous voyez quelque chose là?
Non, pour le moment je vois rien du tout.
Il va falloir bouger du coup.
Je vais descendre un peu.
Bonne journée de pêche.
Bonne journée à vous.
Là, on arrive à un endroit avec quelques roseaux, juste à côté du Doubs. Et donc, cette rivière, l'œil du profane que je suis, j'ai l'impression que l'eau est relativement claire, etc., qu'elle a l'air plutôt en bonne forme.
C'est vrai que si on se place du point de vue morphologique, le Doubs, c'est encore une rivière qui est en très bon état. La rivière a son cours naturel, Elle a ses bords sauvages. Donc ça, là-dessus, on a pas de souci. Le gros souci, c'est la qualité de l'eau.
Et ça se voit pas forcément à l'œil nu, une qualité d'eau.
Non, malheureusement, non. Parce que maintenant, en plus, avec les pollutions chimiques, on peut avoir une eau très claire qui reste très polluée. Et c'est plus au niveau de l'état du fond qu'on constate les dysfonctionnements. Et je vais vous montrer quelque chose. Caillou glissant, vous allez peut-être assister à un exploit. Ces algues-là, je vous en prélève un peu. Regardez, quand je secoue ça dans l'eau, regardez ce qui en sort. En fait, ça piège toutes les saletés. Vous voyez tous les limons là qui en sortent. Donc en fait, ça piège les saletés, ça retient tout et ça colmate tout. Si on enlève ça, il n'y a plus de vie dessous. Faut pas confondre ça, par exemple, ça c'est naturel. C'est de la mousse de pierre, donc ça c'est tout à fait bénéfique. On a les plantes aquatiques, donc ça aussi c'est bénéfique. Mais ça c'est vraiment de l'algue, ça n'a rien à faire là. Et vous voyez, tout ça, c'est que le début. Ça va ne faire que s'accumuler jusqu'à l'automne, quoi. Là, on a des développements d'algues filamenteuses, c'est ces fameuses algues vertes. Alors c'est une couleur plus sympa que le noir, c'est vert, mais c'est quand même pas cool. Et celles-là, elles sont très colmatantes. Elles colmatent le fond, elles partent du fond, mais en plus, elles s'étirent comme des nuages vers la surface, à faire des plaques qui colonisent même la surface de l'eau. Elles sont pas toxiques, hein, c'est la quantité qui gêne, et c'est plutôt leurs conséquences, à savoir un étouffement de la rivière. La vie animale dans la rivière, c'est les poissons, bien entendu, mais aussi, surtout, les invertébrés, qui sont à la base de la chaîne alimentaire avant les poissons. Et si on a des fonds complètement colmatés par les algues, on touche directement le milieu de vie des invertébrés, avec à la clé la disparition des espèces les plus sensibles et une raréfaction des espèces les moins sensibles.
Je me tourne vers vous, Manon Sylvan. Vous avez rejoint l'association, le collectif d'associations en 2015, donc c'est plus récent. Quel est votre combat? Vous essayez de changer quoi finalement?
C'est quand même très, très endémique, les pollutions. C'est pas des pollutions. Il y a des pollutions ponctuelles, mais par exemple, quand on entend, je sais pas moi, dans d'autres régions, Lactalis qui d'un seul coup rejette des énormes quantités ou un truc comme ça, nous, c'est pas ça. C'est plutôt endémique dans le sens où c'est tout le temps. C'est tout le temps des petites quantités ou des moyennes quantités qui font. Donc c'est plus difficile à montrer ça.
Vous avez fait plusieurs propositions avec SOS LRC pour régler ce problème des rivières, pour l'améliorer. Quelles sont-elles ?
74 propositions avec des thématiques différentes, l'agriculture, l'assainissement, l'industrie, la filière bois, et à chaque fois, des propositions pour chacun de ces secteurs.
Vous avez cité plusieurs catégories, mais depuis le début, le débat se concentre un petit peu sur la filière comté.
L'agriculture fait clairement partie des problématiques de pollution, et ici, quand on parle d'agriculture, presque tout le monde est en comté. Enfin, ce serait fou d'ailleurs de ne pas l'être. C'est une super filière qui permet de faire vivre les agriculteurs et agricultrices qui en produisent, et ça tant mieux. Donc ici, l'agriculture, c'est principalement le comté. Donc quand on dit qu'il y a des problèmes agricoles, il y a un peu de lien, forcément, c'est un peu obligatoire, quoi. On ne vise pas un produit en particulier, on vise des pratiques agricoles, certaines pratiques agricoles. Voilà, quand on nous dit, oui, ben, y a eu plein de progrès de fait, mais sans doute, mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'avant, c'était du fumier, maintenant, c'est du lisier, et le lisier, c'est pas la même chose pour les rivières, et qu'on continue à faire des fermes plus grosses avec des cuves, là, voilà, des cuves qui stockent toujours plus de milliers de litres de lisier, et qu'à un moment donné, il faut tout épandre. C'est peut-être un petit peu vieux jeu, je sais pas, moi, j'aimerais bien qu'on vienne au fumier. Le fumier, ça pose beaucoup moins de problèmes parce que bon, le fumier, il y a de la paille avec, enfin de la paille ou d'autres, du paillage. Et donc, ça met plus longtemps à être filtré et à passer dans les cours d'eau. Alors que le lisier, c'est liquide et c'est tout de suite lessivé.
Arrêtons-nous deux minutes, le temps de préciser quelques points importants. La différence entre le lisier et le fumier d'abord, qui servent l'un et l'autre à fertiliser les sols. Le fumier est composé de déjections animales mélangées à de la paille. Le lisier, c'est la même chose, mais sans paille, il se présente sous forme liquide. En période de pluie, il traversera plus facilement les sols du Doubs et du Jura. D'autant que ces sols sont particuliers. Après 30 cm de terre, on retrouve ce qu'on appelle le karst, une roche calcaire poreuse qui filtre très peu les eaux de pluie et donc le lisier. Cette fragilité intrinsèque des sols favorise la pollution du milieu naturel.
Interception.
Bonjour, Pierre-Marie Badeau. C'est bien nous.
Sur France Inter.
Donc je suis Pierre-Marie Badeau, je suis professeur à l'université de Franche-Comté et je travaille au sein du laboratoire de chrono-environnement qui est un gros laboratoire d'environ 300 personnes. Ma spécialité, c'est les transferts de polluants, les transferts de contaminants dans les systèmes écologiques.
Vous avez dans vos mains la dernière étude que vous avez sortie sur l'état des rivières de la région franc-comtoise. Le constat que vous faites dans cette étude, c'est que la population de poissons, notamment, a drastiquement baissé. On parle de 50 à 80%. Vous pointez cette cause principale de la perte de biodiversité dans la Loue, ce cours d'eau dont on a parlé. La première d'entre elles, en tout cas votre numéro 1, c'est l'intensification de l'agriculture.
Il n'y a pas une cause unique, ça c'est évident. Il y a différents facteurs qui ont agi conjointement pour provoquer... Sur le temps long, sur des temps qui peuvent être de l'ordre de dizaines d'années, voire de plusieurs décennies, une dégradation constante, continue, de la qualité des eaux. Dans la problématique qui est celle de la dégradation des rivières comtoises, on a un paramètre important, on s'est aperçu que ces eaux s'étaient enrichies en nitrates. Et potentiellement de temps en temps en phosphate, mais l'origine des nitrates dans les cours d'eau, en faisant simple, elle peut être double. Ça peut être lié à l'occupation humaine, lié au fait qu'effectivement on a des systèmes de récupération des eaux usées, de traitement des eaux usées, et puis donc ce qu'on appelle des stations d'épuration. Ces stations d'épuration déversent leur contenu épuré dans les cours d'eau. Deuxième source possible, c'est effectivement l'agriculture, avec notamment les activités d'élevage, où les animaux vont, à certains moments, déféquer, vont uriner, et tout ceci va contribuer à enrichir le milieu en nitrate dans un second temps. Si l'épuration urbaine, l'épuration domestique fonctionne bien, reste une causalité possible qui est effectivement les origines agricoles pour ces nitrates. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. On a récupéré toutes les données disponibles, les données institutionnelles, et ces données nous ont effectivement montré que vraisemblablement, le plus vraisemblable était que ces excès de nitrates avaient une origine agricole. Nous, ce qui nous semble, c'est que la dégradation, là, elle est marquée, elle est intense, elle n'est sans doute pas irréversible. Si on prend les mesures adéquates, si tous les acteurs de l'environnement ici font ce qu'ils ont à faire, on peut raisonnablement espérer que ces rivières retrouvent des niveaux de qualité tout à fait satisfaisants.
Jour de marché à Pontarlier sous une grande halle ouverte au vent, et on va essayer de trouver des vendeurs de fromage, de comté. Juste là. Crèmerie Montjura. Ils ont au moins trois comtés. Comté cuisine, comté doux et comté vieux. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous achetez votre fromage de la semaine?
Oui.
Et vous achetez quoi comme type de comté? On voit qu'il y en a cinq différents ici.
Moi j'ai pris du fruité. Comme ça convient à tout le monde, en tout cas c'est pas trop fort.
C'est un fromage qui est facile à donner aux enfants?
Alors bah Kimia, toi t'as quel âge?
5 ans.
Et t'aimes bien le comté ou t'aimes pas?
J'adore.
C'est quoi ton fromage préféré?
Le comté.
Vous avez votre réponse, je pense.
C'est le seul que tu aimes ou tu en aimes d'autres?
C'est que le comté.
Ouais, elle aime que le comté. Ça a du goût, mais ça reste doux. C'est parfait, ouais. Sans contact. Merci, bonne journée, messieurs.
Comté. Nous allons rencontrer maintenant les producteurs de comté pour voir comment ils produisent leur fromage et comment ils réagissent face à la pollution des rivières. La filière comté est organisée d'une manière originale. Les éleveurs sont regroupés en coopératives. Ils mettent leur production de lait en commun dans une fruitière, également appelée chalet, et emploient un fromager pour transformer ce mélange de lait en comté. Ils sont plutôt bien rémunérés car le prix du lait y est plus élevé qu'ailleurs. 500 euros les 1000 litres contre 350 euros pour le lait conventionnel. Martin Delacoux et Stéphane Beaufils ont rendez-vous à la ferme d'Alain Mathieu, à Biers-les-Maisons, dans le Jura.
Comté. On arrive tout juste sur l'exploitation d'Alain Mathieu, qui est président du CIGC, le comité interprofessionnel de gestion du comté. On arrive au milieu de la traite.
C'est la traite qui rythme nos journées. Donc la journée elle commence toujours par la traite du matin, 5h30, 5h45, et puis on termine vers 7h du matin. Donc là, on va assister à la traite des dernières vaches. Allez. Alors, il y a deux races qui sont autorisées pour la production de lait dans le comté. C'est la Montbéliarde, qui représente à peu près 95% des vaches présentes dans la région, et puis la race Simmental.
Là, il y en a pour combien de temps, alors, une fois que c'est installé?
En général, c'est 5 à 6 minutes.
Et alors, le lait, il part où après? On voit tous ces tuyaux.
Alors, donc, le lait de chaque vache, il est dirigé ici et on le voit, s'écouler là. Donc, on a un premier mélange du lait des différentes vaches, parce que le comté, c'est une histoire de mélange et de travail en commun. Donc, il y a déjà le mélange du lait des différentes vaches. Et le lait de notre ferme arrive ici. Voilà, donc le lait, il arrive dans cette citerne. Une des particularités et des obligations de la filière comté, c'est la transformation tous les jours du lait. Donc, chaque soir, le laitier de la fruitière vient collecter le lait de chacune des fermes qui contient la traite du matin et du soir. Et à partir de 3 ou 4 heures du matin, les fromagers mettent en fabrication le lait des producteurs de la fruitière. Donc là, on a un premier mélange des vaches de la ferme. Ensuite, le ramasseur de lait va mélanger le lait des différentes fermes qui ensuite va être transformé à la fruitière. Allez, venez ! Viens !
Alors, Alain Mathieu, vous avez combien de vaches au total?
Sur l'exploitation, on a 85 vaches en moyenne sur l'année, donc pour les 4 associés.
Et pour combien d'hectares?
Alors, la surface de l'exploitation, c'est 190 hectares. Donc, répartis sur le plateau qui est ici, puis une partie qui est derrière la forêt que l'on voit, dans le parc naturel du Haut-Jura.
Donc, vous êtes éleveur laitier, vous êtes un petit peu le premier maillon de cette filière comté. Après, comment ça fonctionne?
La particularité de la filière comté, à son origine, c'est-à-dire en 1200 et quelques, les premiers paysans qui se sont implantés ici cherchaient de quoi passer l'hiver, avec quelque chose qui puisse se conserver, un aliment qui puisse se conserver. Et ils ont mis en commun le lait, parce qu'à l'époque, souvent, ils n'avaient qu'une vache ou deux vaches. Donc pas suffisamment de lait pour faire un fromage de grande taille. Et bien, un fromage de grande taille, ils avaient fait le constat qu'un fromage de grande taille se conserverait plus facilement pour passer l'hiver. Donc par la force des choses, ils se sont dit on sera plus fort ensemble. Donc ils ont mis en commun le lait de plusieurs fermes pour avoir suffisamment de lait pour faire un fromage de grande taille.
Ce fonctionnement en fruitière, en coopérative, c'est un petit peu typique aussi du comté.
Oui, c'est typique au comté. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a pas de comté fermier. Parce que le comté est forcément issu du mélange du lait de plusieurs exploitations, de plusieurs fermes.
Alors que ce qu'on appelle un fromage fermier, c'est un fromage fait vraiment sur la ferme, sur la ferme.
Voilà, fait sur la ferme par une seule ferme. Et en comté, c'est pas par opposition, mais c'est parce que ce ne sont pas nos racines, c'est pas notre histoire, c'est pas notre culture. Notre culture, ça a été le faire ensemble.
Et vous disiez que vous aviez une nappe phréatique, c'est ça, juste en dessous de
votre...
Oui,
alors... Donc on a ici devant nous ce qu'on appelle la station de pompage qui pompe l'eau qui arrive de la source, justement la source des Grands Prés qui est au-dessus. Et puis ensuite il y a un réseau qui redistribue sur toutes les fermes. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous, notre métier aussi, là quand on est éleveur, quand on s'occupe de nos vaches, et puis on est cultivateur quand on s'occupe de nos prairies, mais c'est de trouver justement le bon moment pour aller épandre le fumier, savoir en fonction de la parcelle. Ici, on a une parcelle à la fois plate dans le fond et puis qui est incliné sur les côtés. Donc on sait très bien que sur la partie inclinée, il faut être d'autant plus vigilant. Et aujourd'hui, on a des outils, par exemple avec les prévisions météo, qui nous permettent d'être de plus en plus précis. Et on sait par exemple que si on a une période de forte pluie qui est annoncée, bon, on ne va pas aller épandre de fumier, parce que là, on sait qu'on prendrait un risque avec du ruissellement. Donc notre métier, c'est aussi celui-là. Et sur le sol karstique, et quand on est dans un village comme ça, mais c'est le cas de beaucoup d'exploitations, on sait que les résultats d'analyse de l'eau, on les a pratiquement en direct, quoi. Parce qu'on a à la fois, moi je suis à la fois producteur, paysan, mais je suis aussi habitant de la commune. Puis moi aussi j'ai envie de boire de l'eau qui est bonne, parce qu'on est, on n'a pas un pied en disant aujourd'hui je suis producteur de lait et puis après je suis occupant du village. Non, ça fait un tout, quoi. On va prendre un peu de hauteur, ça, on aura un point de vue. On a à la fois la vue sur le Mont Blanc et puis on a aussi la vue sur une partie du massif jurassien. C'est toujours intéressant de prendre la hauteur, ça permet de voir comment est organisé le paysage, la place de l'agriculture. Non, on verra pas le Mont Blanc.
Donc là, on a pris un peu de hauteur. On est à 1139 mètres exactement d'altitude. On est au Bulé, donc c'est le petit sommet ici. Et on domine toute la chaîne jurassienne. Bon, là, on voit surtout des forêts, mais on voit aussi des prairies un petit peu partout autour de nous. La production du comté a doublé en 40 ans environ. Ce sont les chiffres qui sont donnés par les syndicats agricoles notamment. Est-ce que c'est pas une intensification de l'agriculture qui peut entraîner des déséquilibres environnementaux?
Enfin, la filière comté, l'appellation d'origine protégée, elle a 63 ans aujourd'hui. Et la progression de la production de comté, c'est le fruit d'une vraie politique collective d'accueil. Donc ce qui veut dire que par rapport aux engagements que l'on prend sur l'environnement, chaque fois qu'une exploitation agricole intègre la famille du comté, c'est une exploitation agricole dont les surfaces s'engagent dans les exigences du cahier des charges du comté. On a tous un devoir de préserver nos ressources et l'agriculture doit prendre sa part. Elle, le comté, prend sa part comme les autres. Et c'est pour ça que les engagements dans notre cahier des charges avaient déjà des mesures fortes comme la limitation de la production laitière à l'hectare et que dans les mesures que l'on porte aujourd'hui à l'INAO, à l'Institut National des Appellations, pour avoir cette reconnaissance au niveau européen, mais on a la limitation de la taille des fermes, on a 30% de plus de surface par vache, on a une limitation du nombre de vaches par producteur, on a des plans d'épandage individuels par producteur qui sont rendus obligatoires alors que la réglementation ne l'impose pas. Tout ça, ce sont des mesures précises et concrètes pour aller encore plus loin, parce qu'aujourd'hui, personne ne conteste la situation des rivières. Et nous, on doit continuer toujours et encore à apporter notre contribution pour que nos ressources soient préservées, parce que c'est notre histoire et c'est notre avenir.
On peut rentrer dans la filière comté, rejoindre cette filière, mais est-ce qu'on peut aussi en sortir, être exclu par exemple?
Un cahier des charges, il a aussi, et c'est le rôle, et c'est même l'obligation d'une appellation, c'est de contrôler le cahier des charges, avec des contrôles qui sont faits en interne, et puis des contrôles qui sont faits aussi par un organisme externe indépendant. Et s'il y a des manquements aux exigences du cahier des charges, il y a des sanctions, et ces sanctions, elles peuvent aller jusqu'à l'exclusion d'un producteur ou de tout acteur de la filière. Oui.
Il y en a combien par an? Ça arrive régulièrement?
Alors, il y a plusieurs niveaux de sanctions. Il y a des sanctions qui sont des suspensions temporaires de une semaine à deux mois. Et puis, il y a aussi parfois, alors de façon exceptionnelle, heureusement, des gens qui sont exclus de la filière. Alors, ça arrive une fois exceptionnellement, de temps en temps, une exclusion totale, mais ça arrive. c'est considéré aussi comme finalement un peu un échec, parce que ça veut dire aussi que le travail de pédagogie avant n'a pas abouti.
France Inter. Interception.
Alors, on l'a bien compris, les producteurs de Comté ont établi un nouveau cahier des charges pour moins polluer les rivières. Certains choisissent de se lancer ou de se reconvertir dans l'agriculture biologique. Ils peuvent toujours utiliser du fumier et du lisier, mais pas de produits de synthèse dans leurs champs. Ils ont aussi un modèle de production moins intensif.
Bonjour madame, on est de France Inter, on a rendez-vous avec David Paton.
Martin Delacou et Stéphane Beaufils sont de retour dans le Doubs, à la fromagerie de la Chaux de Gillet. David Paton, un éleveur laitier bio, y dépose son lait pour qu'il soit mélangé avec d'autres laits bio pour faire du Comté biologique.
Là, on vient de rentrer dans la fromagerie. Il y a une petite boutique qui permet d'acheter quelques bouts de fromage. Il y a un reste de grande meule juste devant nous qui est bien entamé. Et puis, il y a quelques produits différents, donc du beurre, des yaourts également. Donc, qui montre qu'on ne fait pas que du Comté dans la région.
Bonjour. Bon, on va démarrer. Moi, je vais commencer par me présenter.
Moi, je m'appelle donc David Paton, producteur de lait à Comté, donc sur la commune de Longchaux, avec une coopérative qui transforme à peu près 3 millions de litres de lait à l'année.
Et donc là, on va rentrer, on est juste à l'extérieur,
ouais.
Et on voit les cuves devant, et c'est parti, c'est ça?
Voilà, c'est parti. Ben là, c'est vraiment ce qu'on appelle le fruit commun, donc c'est le mélange des laits. Et voilà, je vous invite à regarder ça. Donc voilà, je vous présente Clément, donc, qui est fromager ici donc, à la coop de la Chaux de Gillet. Il vient de récupérer le lait qui a été trait hier par les 13 exploitations. C'est 13 exploitations qui livrent le lait à la Chaux de Gillet dans un petit périmètre par là aux alentours. Vous voyez, regardez, même depuis ici, vous voyez les vaches. Ça doit être les vaches de Sylvain, hein, si je ne me trompe pas. Et puis donc là, ben, vous avez les trois cuves à Comté, donc des cuves typiques en cuivre. Celle du fond qui va bientôt être soutirée, on appelle, donc qui va basculer dans les moules qui sont en face de vous. Quand c'est que tu soutires?
Dans 2 minutes.
2 minutes. Voilà. Donc dans 2 minutes, vous allez voir le mélange de cahier sérum dans cette cuve qui va arriver dans les moules.
Et donc ça va durer combien de temps
Ah ben voilà, regardez, la cuve est vide. Voilà.
Donc là, il ne reste plus rien, presque.
Voilà. Donc combien il y avait? 3000...
2700 litres.
Voilà.
Elle est toute belle.
La cuve est vide, elle est propre, elle est belle. Prête pour demain.
Vous mettez un produit particulier pour la nettoyer ou juste de l'eau?
Non, il met à peine, tu mets à peine de zini quand même, à peine de poudre.
Ouais, on met un petit peu de poudre.
Poudre à peine abrasive. Permet juste de gratouiller un petit peu le cuivre.
Ouais, vous savez qu'elles sont faites tous les jours, elles reviennent toujours impeccables.
Elles sont plus bêtes que les casseroles à Martin, ça se trouve. Hein?
C'est possible.
Après nettoyage des cuves, les eaux de la fromagerie de la Chaux de Gillet partent dans le système d'épuration collectif, géré par la communauté de communes. Dans d'autres situations, les eaux usées sont gérées directement par les fromageries qui doivent construire leur propre station d'épuration. C'est cette situation que nous avons rencontrée en début de reportage. La préfecture effectue régulièrement des contrôles. Dans le Doubs, il y a eu 21 contrôles inopinés de rejet en 2020, 8 procédures administratives et une procédure judiciaire.
Sur Laguna Grise,
okay.
On part par la gauche.
Hein, c'est bien.
Et, là, il y a 15
km. Bon, monsieur,
j'ai conduit.
Voilà, ça je rentre encore.
Ça fait une dizaine de minutes qu'on est parti de la fromagerie de la Chaux de Gillet. On est en train de suivre la voiture de David Paton, direction leur exploitation, à lui et sa femme, leurs 45 vaches, et également Mathieu Cassé, qui est ingénieur agronome et qui nous attend là-bas.
Voilà, on n'est pas au paradis là?
Vous avez une belle vue ici.
Ouais. Bienvenue au GAEC des Mélèzes, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc l'exploitation de David et Dorothée, Paton, donc en GAEC entre conjoints, avec ses difficultés.
Et ses joies.
Et ses joies. Voilà, donc nous on exploite à peu près 100, à peine plus de 100 hectares, 103 hectares, et puis donc un troupeau de voilà, 45, entre 45 et 50 vaches laitières.
On a une vue dégagée sur des champs, ouais. Ce sont les vôtres là qu'on
ouais,
voit
ouais, majoritairement là, oui, voilà, tout ce qui est devant nous c'est nous, et puis là c'est notre troupeau de vaches en face.
Mathieu Cassier, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes maintenant indépendant et vous avez travaillé pendant 20 ans au sein de la Chambre d'agriculture du Doubs. Et donc Mathieu, vous avez aidé David et Dorothée pour reprendre cette ferme, c'est ça ?
L'idée c'était simplement de, bah, voilà, pour David et puis Dorothée d'avoir une visibilité sur ce qui pouvait se faire. Et puis voilà, de pouvoir voir comment aussi ils allaient s'engager financièrement avec l'organisme bancaire. Voilà, donc le, on va dire le parcours d'installation traditionnel.
On fait un tout petit peu de tour de, ouais, des différents bâtiments.
Donc voilà le bâtiment principal. Donc là c'est la salle de traite. Donc là, c'est leur lieu de vie permanent l'hiver et puis bi-quotidien l'été, puisqu'elles viennent matin et soir. Hein. C'est aussi un des principes du cahier des charges compté. C'est une obligation de traire les vaches matin et soir, 7 jours sur 7. Donc on est dans un système qu'on qualifie de mixte, c'est-à-dire un système fumier-lisier. Donc là, sous ces caillebotis, c'est le lisier. Voilà, ça veut dire que c'est le mélange des déjections des vaches qui va être sous forme liquide. Et puis ici à cet endroit-là, c'est l'air paillé. Donc là, on va pailler abondamment les vaches, former un matelas de paille. Et puis donc, elles se couchent et elles dorment là-bas.
Et vous avez, j'ai l'impression, de nombreux oiseaux qui ont élu domicile dans votre bâtiment.
C'est tout ce qu'il faut. Hein.
Donc là, on a quelques vaches montbéliardes devant. C'est tout votre troupeau ? Vous le répartissez un petit peu ou...
Non, c'est tout mon troupeau. Elles n'ont pas l'air malheureuses. Hein. Il y a celles qui veulent un peu d'ombre qui sont sous les haies. Il y a celles qui préfèrent se faire bronzer au soleil.
Elles produisent combien de lait par jour ?
Par jour, on fait 20, 22, 23 litres en ce moment.
Comment vous faites pour savoir combien de vaches il vous faut sur votre terrain ? Pourquoi 45, pourquoi pas 50 ?
Ouais, alors c'est une bonne question ça. Alors bon, on est déjà encadré par ce qu'on appelle le droit à produire, hein, combien l'exploitation est autorisée à produire de lait. C'est en fait le système qu'a mis en place la filière pour remplacer les quotas laitiers qui existaient avant. Donc voilà, moi mon droit à produire maximum pour la ferme, il est à 360 000 litres je crois par an. Donc il y a un cadre fait par la filière, et après il y a ce que chaque exploitation est à même de faire.
Et comment rentrent les questions environnementales là-dedans ? Est-ce qu'on se dit, s'il y a trop de vaches, peut-être que le lisier par exemple qu'on met va pouvoir s'infiltrer plus dans les sols ? Est-ce que tout ça rentre en compte ?
Tout ça c'est pris en compte dans le cahier des charges compté, oui. C'est ce que tu voulais dire, Mathieu ?
Oui, normalement, oui, c'est ça. Il y a toujours un système de plan d'épandage aussi qui, normalement, bah, refait la cartographie des parcelles, reprend la qualité de chaque terrain et, du coup, met des limites aussi sur ce qui est possible d'épandre sur une parcelle ou sur une autre en fonction de la qualité des terrains. Après, je pense que ce qu'expliquait David juste avant, que je trouvais intéressant, c'est que lui... Il se limite davantage par rapport à sa production que ce qui lui est autorisé aujourd'hui par la filière parce qu'il est en bio. Et puis qu'en bio, en fait, quand on dépasse en fait le potentiel autonome, je dirais, de production des fourrages, on n'a pas le droit à l'engrais déjà, donc on ne peut pas faire pousser plus. On va être obligé d'aller acheter des aliments bio à l'extérieur qui coûtent super cher et donc rapidement, ça ne vaut plus le coup, quoi. Donc économiquement, il n'y a pas intérêt à faire ça. Et donc en fait, ce système-là, j'ai envie de dire... Bah, de par cet aspect-là, vu qu'il a tendance à rendre la chose plus autonome et à bien mettre en adéquation le troupeau avec la surface, par cette règle, et ben du coup, forcément, il génère moins de pression aussi en termes de ce qu'on a géré comme effluent après à retourner à épandre. Et donc, ben, quelque part, ça a tendance à mieux boucler en fait les cycles de la matière et à vraiment faire en sorte qu'on prend zéro risque, je dirais, ou très peu de risque sur les fuites qu'il pourrait y avoir dans le milieu naturel. Ouais.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'épandre du lisier et de voir qu'il pleut alors que ce n'était pas prévu juste après ? On est dans une zone un petit peu montagneuse. Le temps change plus rapidement, je suppose, qu'en plaine. C'est des choses qui peuvent arriver.
Ah ben ça, c'est sûr, oui. On essaie de faire au mieux, mais on ne fait pas toujours comme on veut.
Être bio ne règle pas tous les problèmes environnementaux.
Ça permet de limiter, on va dire. Enfin, y a un certain nombre de mesures, mais comme certaines qui sont d'ailleurs dans le cahier des charges du comté aujourd'hui, quoi, qui font qu'on va limiter les risques en fait, quoi. Mais effectivement le zéro risque il n'existe pas non plus, quoi. Donc après c'est toujours une question de dosage et puis de se dire qu'est-ce qu'on inscrit dans un cahier des charges qui permet de faire en sorte que le plus gros risque soit quand même évité, quoi, et qu'on se retrouve pas avec une catastrophe après à l'aval, quoi.
dernière chose, pendant que quand même je peux parler, c'est que bon, là vous vous intéressez à ce qui se passe dans le comté, et tant mieux. On se rend compte qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre les discours des politiques qui veulent amener plus de bio aux consommateurs, qui veulent encourager l'agriculture bio, et les faits. Parce qu'aujourd'hui les faits, je les ai dans ma poche écrits noir sur blanc, donc je les ai par cœur, c'est que la baisse des aides à l'agriculture bio va diminuer de 66% avec la prochaine PAC. Ça veut dire que nous, on a une aide à l'hectare aujourd'hui en production de bio qui est de 202 euros par hectare et qui va baisser de 66% avec la prochaine PAC. Donc ça, ça n'encourage pas non plus les systèmes bio à continuer, quoi. Et ça peut même des fois provoquer de la déconversion. Voilà. Voilà. Et dernière chose sur l'aspect économique quand même, parce qu'après on parle de comté bio, mais le comté bio est vendu plus cher au consommateur. Faut aussi que le consommateur soit prêt à mettre encore 2, 3 euros, 4 euros de plus au kilo pour un comté bio. Et ça, c'est pas non plus forcément évident. Et puis c'est pas le marché qui peut comme ça, du jour au lendemain, avoir des consommateurs supplémentaires pour un produit comme celui-là.
Le comté, un modèle de production en question, c'était un reportage de Martin Delacoux et Stéphane Beaufils. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Mixage Dauphard Guéride.